Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire, aujourd'hui, Trump après l'enquête russe.
C'est ça, avec ses accusations de la part de Trump de haute trahison. Donald Trump hier sur Fox News pour qualifier ceux qui cherchaient sa destitution alors qu'il vient d'être disculpé le week-end dernier dans l'enquête sur ses liens avec la Russie. Au bout de 2 ans, donc, le département de la justice l'exonère des accusations de collusion avec la Russie, donc de trahison. Les démocrates qui visaient l'impeachment se demande donc si et comment tourner la page. Et pendant ce temps, Trump est déjà reparti en campagne. Alors, victoire médiatique et domination politique. On voit ça avec vous, Marie-Cécile Nave. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venue. Vous êtes chercheuse associée à l'IRIS, auteur de Trump, l'onde de choc populiste et Trump, la revanche de l'homme blanc, l'homme blanchi cette fois, puisque, comme le disait Lindsey Graham, donc le sénateur à Trump dimanche, c'est en quelque sorte le premier jour d'une nouvelle présidence après quasiment 2 ans d'enquête, 2800 assignations, 500 témoignage. Donc l'accusation la plus grave de collusion, c'est-à-dire entente avec la Russie, n'a pu être prouvée, ce qui aurait valu un impeachment. Du coup, ces accusations de haute trahison de Donald Trump hier envers ses adversaires, c'est d'abord une victoire médiatique, cette fin de l'enquête.
C'est une grande victoire médiatique, oui, et symbolique aussi pour lui dans le processus de sa propre stratégie politique en vue des élections de 2020. Évidemment, il va capitaliser sur, non pas ce que dit le rapport Mueller qu'on n'a pas lu, mais sur les 4 pages qui le résument, d'après son propre ministre de la Justice. Donc on a un intermédiaire qui interprète aussi ce qu'il a pu lire. Et sur la question sans doute la plus grave qui était posée, c'est celle d'une obstruction à la justice, avec notamment le limogeage de James Comey, directeur du FBI. Et bien là-dessus, Mueller semble dire que effectivement, il n'a pas de preuves pour que des poursuites judiciaires soient engagées contre Trump, mais il ne l'exonère pas complètement. Ça, c'est dans le mémo du ministre de la Justice. Donc,
voilà. Oui, c'est ça. Alors, c'est même pas Mueller qui le dit, c'est William Barr, le ministre de la Justice, dans ses fameuses 4 pages. Comme vous le dites, il y avait 2 questions. Hein. Collusion, donc là, il est exonéré, dit le rapport. Et puis, les soupçons d'obstruction. Là, il y a rien qui indique qu'il a fait obstruction, mais il n'est pas exonéré non plus. Comment est-ce qu'on peut expliquer les mots de Donald Trump assez accommodants envers Mueller? Il a salué son travail honorable le week-end dernier, alors même qu'il avait quand même fait des attaques répétées contre lui. Il parlait du gang Mueller à l'époque.
Oui, comme s'il était le complice des démocrates, de tous ses ennemis qui voulaient l'abattre, qu'il était téléguidé par on ne sait quelle main invisible politique ou plus mystérieuse. Et puis, comme Mueller finalement n'invite pas à ce qu'il y ait des poursuites judiciaires contre Trump, c'est devenu presque son ami. C'est comme ça que fonctionne Trump. Il y a les gens qui sont contre lui, les gens qui sont pour lui. Et il fonctionne aussi en termes très binaires selon lesquels le monde est divisé entre les gagnants et les perdants. Très clairement, il est dans une phase où il est gagnant. Après un début d'année 2019 difficile, on en avait parlé ici même d'ailleurs, hein, avec le shutdown, l'entrée en fonction d'un nouveau congrès avec une chambre des représentants très féminisée et très démocrate surtout, plusieurs difficultés sur la scène internationale avec Kim Jong-un, qui visiblement l'a mené en bateau dans les négociations sur le nucléaire. Donc là, il entre dans une phase de reconquête et de revanche. Et il le dit d'ailleurs dans plusieurs interviews. Ouais. Maintenant, il va pouvoir prendre sa revanche sur on ne sait pas très bien qui, mais tous ceux qui sont contre lui. Et en gros, c'est les démocrates, bien sûr, l'establishment d'une manière générale, les fake news médias, les ennemis du peuple, c'est-à-dire les grands médias, ouais, tels qu'on les connaît. Et ça redonne un élan à sa stratégie de communication populiste, c'est-à-dire je suis seul contre tous, mais vous voyez bien, c'est moi qui ai raison. Donc vous avez bien fait de m'élire.
Donc c'est pour ça que je parlais de victoire médiatique, c'est la victoire du récit de la chasse aux sorcières. Exactement. Avec pour effet collatéral, alors à quel point c'est grave vous allez nous dire, mais un ensemble de doutes, d'interrogations de la presse, voire d'accusations de la presse et des éditorialistes entre eux sur, disons, la manière dont ils ont traité justement cette affaire. Il y a des éditoriaux cinglants, catastrophic media failure, ça c'est dans le Wall Street Journal quand même, envers le New York Times et le Washington Post.
Oui, un petit peu de remise en question d'une partie de la presse parce que il y avait beaucoup d'attentes hein, sur ce rapport Mueller. On se doute bien que par son passé, par ce qu'il fait au quotidien, par ce qu'on observe de lui, le président Trump n'est pas quelqu'un qui est tout blanc, entre guillemets. C'est-à-dire, on sait très bien qu'il y a beaucoup de forts soupçons de conflits d'intérêts. Le limogeage de James Comey est extrêmement louche. Il y a aussi plus de 30 personnes qui ont quand même été inculpées dans l'enquête russe. Il y a 30 Russes qui ont été inculpés. Le Paul Manafort, etc. Donc il y a quand même dans son entourage...
6 personnes autour de Donald
voilà,
Trump.
Voilà, 6 personnes autour de Donald Trump. Même s'il n'y a pas forcément de lien complètement direct avec la campagne électorale, il est quand même entouré de gens qui ont un mail à partir avec la justice ou qui ont eu mail à partir avec la justice. Donc c'est pas un personnage qu'a priori on considère comme étant complètement honnête. Mais effectivement, sans doute que certains médias sont allés... Bon, comme nous peut-être, hein, un peu vite dans les anticipations du rapport Mueller. Moi, je dirais qu'il y avait beaucoup d'attentes et qu'il y a eu un teasing aussi involontaire de la part du procureur Mueller qui nous a laissé penser qu'il allait peut-être sortir une grosse affaire. Et Elle est là peut-être cette grosse affaire, mais il peut pas le prouver.
Avec cette épée de Damoclès, effectivement, qui faisait également un bon scénario. Chose intéressante également, c'est que dans les sondages, en tout cas, on n'a pas l'impression que ça change grand-chose. En tout cas, il y avait 38% dans un récent sondage Ipsos Politico qui jugeait que l'impeachment devait être une priorité du nouveau Congrès. Qu'est-ce que ça veut dire que finalement ces affaires importent peu à l'électeur de Donald Trump ou à l'électeur américain? Général.
Oui, on va voir comment ça se passe dans les semaines qui viennent, comment lui il va dérouler sa stratégie, quelle incidence ça va avoir sur l'électorat. Mais c'est pas très surprenant finalement que chaque camp reste dans ses positions. Donald Trump, c'est quelqu'un qui a contribué à très largement cliver l'Amérique entre les pour et les anti-Trump. Mais quand même, l'avantage pour lui, c'est que ça participe d'une galvanisation du cœur de son électorat. Et comme sa stratégie, visiblement, pour les élections présidentielles de 2020, c'est de ne pas élargir sa base, mais vraiment de se concentrer sur les gens qui l'ont élu en 2016 avec des stratégies état par état, on s'en souvient. Cette stratégie s'en retrouve aujourd'hui renforcée, confortée, et ce sont aussi des gens qui sur le terrain font campagne et essaient de mobiliser autour d'eux pour un vote en sa faveur. En 2020, on est quand même encore loin des élections présidentielles de novembre 2020. Cependant, pour lui, c'est une séquence quand même où il se sent très fort, où la confiance est retrouvée, et ça joue évidemment sur le long terme.
Et de fait, comme je le disais, elle a reparti en campagne dans le Michigan, un de ces swing states qu'il avait gagné en 2016. Alors, une fois passée, disons, cette option éventualité de l'impeachment, d'abord est-elle vraiment passée? Et puis surtout, justement, que vont pouvoir faire les démocrates d'ici 2020 pendant les primaires? Il y en a une partie qui veulent quand même le rapport complet d'ici le 2 avril. Et puis, il y a une bataille entre eux en ce moment pour savoir s'il faut aller de l'avant, comme le dit Tulsi Gabbard, une des candidates, ou alors, et axer la campagne sur les questions économiques, ou alors continuer justement dans les accusations et puis les commissions d'enquête.
Oui, les démocrates quand même ont pris entre guillemets un coup sur la tête avec les conclusions du rapport Mueller. Ils s'attendaient sans doute à autre chose, donc ils sont un peu fragilisés, mais ça les galvanise aussi pour combattre Trump. Soit effectivement en prolongeant les enquêtes qui sont en cours au Congrès. Il y a plusieurs enquêtes sur Trump. Et ils vont sans doute se servir du rapport Mueller qu'ils espèrent avoir pour pouvoir nourrir ces enquêtes-là. Il y a aussi d'autres enquêtes sur les conflits d'intérêts de la Trump Organization, sur les affaires de scandales sexuels, voire de viols de la part du président. Et puis, comme vous le disiez...
Mais qui ne peuvent pas amener à une destitution aussi.
Non, pas une destitution pour ça. La destitution, c'était quand même une hypothèse assez fragile. On n'y croyait pas trop. Et puis, vous avez... plutôt une autre partie des démocrates, et il va falloir qu'ils décident effectivement ce qu'ils privilégient, qui ont envie de dire, bon ben, c'est peut-être notre chance, ce que dit le rapport Mueller, parce qu'on va vraiment se concentrer sur l'agenda et s'opposer à Trump projet contre projet, avec déjà des choses qui commencent à sortir, c'est le Green Deal, New Deal, sur le fait de mettre en place une assurance maladie universelle, alors que Trump lui-même... toujours obsédé par le fait de supprimer l'Obamacare et bien n'a pas de plan B pour l'assurance maladie, mais va s'opposer aux démocrates là-dessus. sur le coût de l'enseignement supérieur, sur la réduction des inégalités socio-économiques, etc. Peut-être que justement les démocrates vont se reconcentrer sur le fond, sur l'agenda, et ça peut être une chance pour eux, parce que comme ils sont quand même très divisés, il va falloir qu'ils se mettent d'accord sur un projet commun.
Et la campagne et la bataille qui va repartir, et sur l'Obamacare qui est déjà reparti, on en reparlera bientôt. Merci beaucoup Marie-Cécile Nave.
Merci.
Merci chercheuse à Socialeris. On renverra à vos livres L'Onde de choc populiste et La revanche de l'homme blanc. Bonne
journée. Merci beaucoup.